Salut tout le monde! Vous écoutez les Barricades Mystérieuses sur RTF ou bien vous pouvez nous écouter sur le DAB+, si vous l'avez, et vous pouvez aussi nous écouter sur Internet, sur notre site Internet, ou écouter le podcast de l'émission. Donc, aucune excuse pour rater cette émission des Barricades Mystérieuses. Alors, c'est une émission consacrée à la littérature et à la musique classique. Et aujourd'hui, deux livres intéressants et assez curieux l'un et l'autre, donc de Yves Ravet, un roman qui s'appelle Taormine, et un livre alors très étonnant de Velibor Čolić, Manuel d'exil, comment réussir son exil en 35 leçons. Et c'est un livre aussi très très étonnant, écrit par un soldat bosniaque qui a déserté au moment de la guerre de Bosnie pour se réfugier en France. Voilà, et puis alors des musiques, alors j'ai choisi un fil conducteur qui est que ce ne sont que des instruments à vent. Voilà, nous entendrons la clarinette de Sharon Kam. Nous entendrons Lucienne Renaudin-Vary à la trompette. Lucienne qui devient une fille extrêmement sexy, qui a fait un album avec de très jolies photos et des très jolies musiques très variées aussi. Et puis nous écouterons de la flûte à bec. Je ne suis pas fou de ça, mais je trouve que Vivaldi réussit assez bien les compositions pour flûte à bec. Et enfin, aussi Handel qui a beaucoup écrit pour la flûte, mais cette fois la flûte traversière ou le traverso. Alors, nous commençons tout de suite par Sharon Kam, qui est une clarinettiste virtuose et qui enregistre là donc un morceau. Alors, c'est une adaptation, bien sûr, et comme beaucoup de choses que nous allons écouter lors de cette émission. Donc, nous allons écouter, c'est une adaptation de La Brasileira de Scaramouche de Darius Milhaud. Thank you. Voilà, vous avez entendu donc cette Brasileira, extraite du Scaramouche de Darius Milhaud. Alors normalement, c'est écrit pour deux pianos ou piano à quatre mains. Et là, nous avons une adaptation donc pour clarinette de Sharon. De Sharon Kam, voilà, clarinettiste de grand talent, c'est une Israélienne. Je vous ai dit instruments avant, et je vous propose maintenant d'écouter une sonate de Vivaldi. Alors, c'est une sonate, c'est la RV 116 pour ceux que ça intéresse, et c'est en Do majeur. Elle est interprétée par un ensemble suédois qui est assez mal défini. On ne sait pas trop qui fait quoi, mais là, je crois qu'il s'agit de Émilie Ross, qui joue de la flûte à bec, et elle est accompagnée par Or. Alors, ils ont des noms imprononçables, ce sont des Suédois, ce qui ne les empêche pas d'être d'excellents musiciens. Voilà, on nous donne même les instruments, mais je pense que ce sont des copies, car on nous donne des dates. À mon avis, les instruments qui datent de cette époque sont plutôt impossibles à jouer. Donc, Vivaldi, concerto, sonate pour flûte à bec.
Thank you.
Voilà, donc c'était une sonate de Antonio Vivaldi. Vous savez, Vivaldi a beaucoup écrit et il a beaucoup écrit pour la flûte et pour la flûte à bec et en particulier un très joli concerto que tout le monde connaît qui s'appelle Il Gardellino, le Chardonneret, qui est un concerto pour une petite flûte à bec. Notre premier livre, alors un roman de Yves Ravet. Yves Ravet a publié pas mal et c'est, comment dirais-je, assez typique de ces auteurs qui publient aux éditions de minuit. C'est le cas de ce livre, bien sûr. Alors, quelques-uns, j'en ai présenté sur cette antenne. Je vous cite quelques titres au passage. Bambi Bar, Enlèvement avec rançon, La fille de mon meilleur ami, Trois jours chez ma tante, Pas dupe, Adultère, en 2021. Et ça, c'est son dernier roman, donc Taormine. Alors Taormine, tout le monde sait que c'est une très jolie ville de Sicile. C'est un site merveilleux qui est au-dessus de la mer. C'est extraordinaire. Il y a un théâtre antique. Et d'ailleurs, il y a un film de Woody Allen qui s'appelle Maudite Aphrodite en français et qui commence dans ce théâtre de Taormine. Alors là, il est question d'un homme qui... Alors, il s'appelle... On apprend au cours du livre qui s'appelle Hamet, comme Dashiell Hammett, l'auteur du Faucon Maltais. Et puis, son prénom, c'est Melville, comme Herman Melville. Petit clin d'œil de Yves Ravet au lecteur. Et il est avec sa femme, Louisa. On sent tout de suite que ça se passe pas très, très bien entre eux. Et visiblement, donc, Melville a prévu ce voyage à Taormine pour se réconcilier un peu avec Louisa. Ils arrivent à l'aéroport de Catane Fontana Rossa, ils ont loué une voiture et ils partent. Alors ils décident de quitter l'autoroute pour aller voir la mer. Ils prennent une petite route qui est au niveau de la mer et puis la nuit tombe, ils roulent sur cette route et puis soudain un choc terrible, très important. À tel point qu'il croit qu'il a heurté un plomb en béton ou quelque chose comme ça. Bon, et puis finalement, c'est pas un plomb en béton, on sait pas trop ce que c'est. Il redémarre et là, bah, il va essayer de gagner Taormine. Oui, mais en fait, on apprendra plus tard qu'il y a un enfant qui venait d'un camp de gitans qui était proche et qui a été tué par une voiture. Une voiture qui est partie, qui s'est enfuie. Et alors, on ne sait pas du tout s'il s'agit de la voiture louée par Melville, Hamet et sa femme Louisa. Mais ce qui est certain, c'est que le lendemain, donc il trouve un hôtel et il se dit « Oh ben, ça serait quand même bien ». Alors, il se rend compte que l'aile droite est détériorée. Et il se dit « Ben, ça serait bien si on la faisait réparer ». Et il l'amène chez un garagiste tout proche. Oui, mais le garagiste a appris que un enfant avait été tué, etc. Et alors s'insinue une atmosphère de persécution car il soupçonne évidemment Melville d'avoir lui-même tué cet enfant et il trouve bizarre qu'il fasse changer l'aile de cette voiture, qu'il la fasse réparer. Alors il le met au courant en même temps et puis il commence à exiger de l'argent liquide et finalement ce malheureux Melville et sa femme Louisa se retrouvent pris dans une espèce de spirale d'ennui épouvantable dans le genre qui les amène pratiquement à être des fugitifs dans cette Sicile alors qu'il n'a plus rien de touristique, il n'a plus rien de charmant et ça s'appelle Taormine un peu par antiphrase. Alors c'est un livre très agréable à lire et très bien fait parce que C'est une sorte de polar, mais de polar très littéraire et très bien calculé, avec une sorte à la fois d'angoisse et de révolte et qui gagne peu à peu l'esprit du lecteur. Et alors, en plus, c'est quand même, ça reste dans l'inconnu. Est-ce que c'est sa voiture qui a heurté un enfant et tué un enfant, ou alors est-ce que c'est autre chose? Et il décrit bien le choc comme étant un choc beaucoup trop violent pour que ça ait heurté un être humain. Enfin bref, donc, et en quelque sorte, c'est l'idée qu'il a de vouloir faire réparer sa voiture qui va faire de lui un coupable. Un coupable poursuivi par toutes les polices de Sicile. Voilà, donc Yves Ravet, Taormine, un roman très agréable à lire, c'est aux éditions de Minuit. Voilà, tout le monde avait reconnu Summertime, tiré de l'opéra de George Gershwin, et interprété par Lucienne. Alors, Lucienne, Renaudin, varie. Il y a une école française de trompette qui a été absolument illustrée par Maurice André. Maurice André qui a été le grand trompettiste du XXe siècle. Et du reste, il a laissé son empreinte à tel point que même actuellement, tout le monde, tous les trompettistes, en tout cas tous les trompettistes classiques, jouent dans le style de Maurice André qui se caractérisait par la recherche du son pur, où il ne voulait aucun souffle, aucun... Voilà, un son très, très concentré. Alors, il y a eu enfin, tout le conservatoire de Paris qui accueille la fine fleur des trompettistes mondiaux, voilà, joue dans ce style. Ça a été le cas de Lucienne Renaudin-Varie. Alors, je suis pas... Elle a une petite trentaine d'années maintenant et elle fait une très belle carrière. Alors, je crois qu'elle est native du Mans. Enfin, elle a fait des études, j'allais dire, ordinaires. Elle est allée au conservatoire et puis là, elle a commencé la trompette. Puis là, le professeur lui a dit, oh, bah, tu es quand même très douée, tu devrais passer le concours d'entrée au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, donc dit le SUP de Paris. Ce qu'elle a fait, et puis elle a fait une carrière ensuite, et elle est, alors elle a plusieurs atouts, pour commencer, c'est une très très jolie fille, mais surtout, donc très très bonne trompettiste, mais surtout avec un esprit très ouvert, puisque elle joue du répertoire classique, bien sûr, mais elle joue aussi du répertoire contemporain, de la variété. Par exemple, son dernier album, alors elle joue avec l'Orchestre National de Lille, mais elle joue aussi du Donizetti, mais également du Rodgers. Rodgers, c'est l'auteur, par exemple, de la Mélodie du Bonheur, mais aussi du Gershwin, vous l'avez entendu, mais aussi des adaptations de Rachmaninoff, etc. Donc, quelqu'un qui a l'esprit très ouvert, qui collabore avec tous les musiciens. Voilà, c'est une fille tout à fait douée. Alors, on change de style. Nous allons écouter un flûtiste. Un flûtiste, c'est Jonek Grosch, je suppose que ça se prononce comme ça. C'est un Hollandais et il joue une œuvre de David Drahm, une œuvre qui date de 1961. Je vous laisse juger par vous-même. Shouting, tuned to a whisper.
And it whispers to me, if it ain't over till it's over, then what wasn't still might be. It ain't over till they kill the lights. It ain't over till they send us out into the night. You can't feel me as I slumber next to you, dreaming of better days when our rage flew. Well, the shouting has become a whisper, and it whispers to me, if it ain't over till it's over, then what wasn't still might be.
Voilà, un morceau assez étonnant, mais assez sympathique finalement, de David Drahm, qui apparemment a aussi lui-même enregistré la voix par-dessus son morceau, et c'est interprété par Janek Grosch à la flûte. Alors, deuxième livre de cette émission, de Velibor Čolić. Je crois que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûr. Manuel d'exil. Comment réussir son exil en 35 leçons. Roman, essai chez Gallimard. Alors, roman peut-être, mais très autobiographique sans doute. Car c'est l'histoire de Velibor Čolić, qui est né en 1964 en Bosnie, et il est réfugié en France. Alors, il s'est réfugié en France parce qu'il a déserté, c'était un soldat bosniaque, et il a été absolument bouleversé et révolté par ce qu'il a vu pendant la guerre de Bosnie, c'est-à-dire des morts, des gens maltraités, épouvantablement mutilés, enfin vraiment les horreurs de la guerre, et il n'a pas pu supporter cela, et donc il a décidé un beau jour de déserter et de gagner l'Europe de l'Ouest, et en particulier la France. Donc il arrive en France, il parle le serbo-croate, il parle le russe, un peu l'anglais, et il va apprendre le français. Alors il arrive avec d'autres réfugiés, et il arrive à Rennes. Et à Rennes, donc, il nous raconte... Donc, sa vie dans le centre, en une espèce de centre d'hébergement, qui est un ancien lycée. Et là, il commence à apprendre le français en compagnie d'autres réfugiés. Alors, c'est quelqu'un qui a déjà écrit en serbo-croate des livres, mais il a une vocation, c'est de devenir écrivain. Et il fait tout ce qu'il peut pour devenir écrivain. Et il apprend le français. Alors il apprend le français, mais d'une manière prodigieuse, car ça nous donne ce livre, « Comment réussir son exil » en 35 leçons, écrit en français et dans un style merveilleux. Une grande maîtrise de la langue, mais en même temps une façon lyrique, presque poétique parfois, d'exprimer les choses. Alors c'est aussi... parfois drôle, puisque c'est l'itinéraire de quelqu'un qui, par moment, est quand même SDF, alors qu'il nous explique comment il peut avoir se procurer de la nourriture. Alors, c'est un peu du vol, il faut bien dire. Alors, il va dans des supermarchés, puis alors, il se planque pour aller consommer la nourriture qu'il vient de voler, ou alors il prend le métro, mais il se débrouille pour ne pas payer, bien entendu. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est qu'il est sans cesse en train de lire, et il lit de grands auteurs, il lit Kafka, il lit Paul Celan, il lit Stefan Zweig, etc. Et il va au cinéma. Alors, il va au cinéma parce que c'est un cinéma du Quartier Latin qui projette le film de Cécile B2000, Les Dix Commandements. Et alors, c'est un film très très long. Et il le projette plusieurs fois. Alors lui, il reste, ça l'héberge pendant un moment. Bon, voilà. Alors, de temps en temps, à présent, par exemple, à présent, j'habite Place Clichy dans une chambre de 5 mètres carrés, fenêtre ouverte. Une fois que je la referme, cela donne à peine la moitié. Et donc, un froid matin d'hiver, il est transformé en gnome. La lumière du jour, timide et gris, semble se noyer dans les eaux lases et croupies du Paris hivernal. La fenêtre est loin, très loin, mon lit ressemble à un énorme radeau. Voilà l'exemple du style de Velibor Čolić et comment il a réussi à maîtriser le français. Alors, il nous raconte qu'il est invité au Parlement des écrivains à Strasbourg, et il rencontre Salman Rushdie, il rencontre des gens comme ça, et ça lui permet d'avoir un éditeur et de se faire publier, chez Gallimard dans la collection Blanche. Donc ce n'est pas rien. Et alors, à la fois humoristique, drôle, touchant, voilà, je vous conseille de lire Manuel d'exil de Velibor Čolić, Comment réussir son exil en 35 leçons.
stava un amico e un coperto nemico. Ti scopro in lui che ad anni miei congiura. D'esprimere in un foglio i sensi miei. Ora in altra contrada i giorni miei a trascinare si
Voilà, c'était donc à nouveau Lucienne Renaud d'Avary qui, dans un opéra bien connu de Donizetti, Don Pasquale, et avec un grand solo de trompette, voilà, qu'elle interprète très bien. C'était pour vous montrer un autre exemple du talent de cette Lucienne Renaud d'Avary. Après Gershwin, eh bien, elle est capable d'interpréter de la musique du XVIIIe siècle comme celle de Donizetti. Alors, nous avons entendu tout à l'heure Sharon Kam, Sharon Kam extraordinaire clarinettiste israélienne. Ce qui me suggère d'ailleurs une réflexion, à savoir que ce sont des femmes qui font les meilleures, les plus grandes virtuoses à la clarinette, puisqu'il y a Sabine Meyer qui a été la soliste de la Philharmonie de Berlin, et maintenant il y a cette Sharon Kam. Alors, il s'agit d'un air bien connu et qui a été utilisé comme thème et variation par des quantités extraordinaires de musiciens. Là, c'est le thème du Carnaval de Venise. Alors, je crois que tout le monde le connaît. Si vous ne le connaissez pas, vous allez voir, vous le connaissez quand même. Et là, je vous propose d'écouter donc des variations sur le Carnaval de Venise de Amiro Giamperi.
Thank you.
Voilà, donc c'était Sharon Kam qui interprétait ses variations sur le thème du Carnaval de Venise par Giampieri. C'est une virtuosité absolument époustouflante, vraiment une sorte de feu d'artifice, de gamme, d'arpège, de triolet. Voilà, c'est très représentatif de ces grandes fantaisies brillantes qu'on écrivait pour la clarinette. La clarinette se prête très bien. Alors évidemment, il faut énormément travailler, être très doué, mais ça se prête très bien à ce genre de virtuosité. La flûte un peu moins, mais beaucoup aussi. Le hautbois beaucoup moins, parce que c'est un instrument beaucoup moins agile. La clarinette est merveilleusement agile là-dedans. Voilà, donc c'était les barricades mystérieuses consacrées cette fois-ci à des instruments à vent. Nous retrouverons prochainement sur RTF 95,4 MHz pour d'autres barricades mystérieuses. Salut à tous et salut à toutes.